Deutsche Welle. L'arbre à palabres.
Bonjour. Le diagnostic est sans équivoque. L'humanité traverse la période la plus chaude de l'histoire de la civilisation moderne et la situation va empirer sans une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Que faire? Changer de comportement? À Bonn et durant 2 semaines, du 6 au 17 novembre 2017, il est question de réfléchir aux voies et moyens de mettre en œuvre l'accord de Paris, accord obtenu durant la conférence des parties COP21 de 2015. Principale recommandation de cet accord, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum par rapport à l'ère pré-industrielle. Car justement, les activités industrielles sont en majeure partie responsables du réchauffement climatique. Et quand on parle d'activités industrielles, on pense d'abord aux pays riches. Mais doivent-ils seuls porter le fardeau? Quel rôle doit jouer l'Afrique, maillon faible de la chaîne mondiale? Que signifie pour les Africains la limitation à 2 degrés de la hausse des températures? Voilà autant de questions dont nous débattrons dans cette émission. Avec moi dans ce studio, 2 participants à cette COP23 qui a lieu ici à Bonn. Serge Ndiekouneyom, spécialiste en programme développement durable du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Bonjour.
Bonjour.
Louis-Roger Essola Etoa, ancien parlementaire camerounais, président du comité de pilotage sous-régional de la conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale. Bonjour, monsieur Essola Etoa.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de la Deutsche Welle, surtout pour ceux qui sont avec nous sous l'arbre à palabre.
Voilà, ils reçoivent vos salutations sans doute. Merci à vous d'avoir pu vous libérer quelques minutes pour discuter avec nous. Au micro, Fréjus Quenot, merci à nos auditeurs de nous rejoindre pour cette émission. Alors ma première question s'adresse à vous, honorable Roger Essola Etoa. Je rappelais que vous étiez parlementaire camerounais ou ancien parlementaire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un peu un état des lieux en matière de réchauffement climatique dans la sous-région de l'Afrique centrale?
Ben, en fait, l'état des lieux, il est commun pour tout le monde de savoir qu'on a de moins en moins de pluies. Il y a la sécheresse qui est pratiquement galopante. Les cycles des travaux champêtres qui ont pratiquement chamboulé, on ne sait plus à quel moment il faut planter, à quel moment il faut récolter. Il y a nos cours d'eau qui s'assèchent, des maladies et d'autres qui vont avec. Qu'est-ce qu'on ne citerait pas et qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a plus vécu depuis un certain temps et qui est aujourd'hui fait l'objet du quotidien, du fait de ce que depuis la grande sécheresse des années 1972 jusqu'à date, le dérèglement climatique fait partie de la vie de nos populations et il faut faire avec. Et faire avec pour nous, c'est ne même pas avoir des moyens pour déjà y faire face. Mmh. Parce que quand nous sommes dans des réunions comme celle-ci, on nous parle beaucoup plus d'atténuation, alors que nous, on a beaucoup plus des préoccupations d'adaptation. Voilà ce que nous vivons au quotidien dans la sous-région d'Afrique centrale et pour lequel nous pensons que un jour ou un autre, des solutions réelles vont être apportées à nos populations qui sont les premières à souffrir des effets néfastes des changements climatiques.
On espère justement qu'il y aura une solution qui sera apportée parce que le constat qui se fait observer, c'est que lorsque l'homme n'est pas en danger, ne se retrouve pas en danger ou face au mur, il n'a pas la réaction qu'il faut. Peut-être que beaucoup de gens pensent que tout ce que vous venez de décrire, les sécheresses, le dérèglement des cycles pluviométriques n'ont pas vraiment de lien avec le réchauffement climatique. Je ne sais pas, monsieur Serge Ndiekouneyom, ce que vous en pensez.
Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, pour les populations africaines, et notamment pour les populations rurales, la question du réchauffement climatique, même s'ils n'en ont pas une compréhension scientifique, ils l'aperçoivent de manière assez nette et assez claire. Donc, au niveau de leur rythme de vie, de leurs habitudes, de leurs pratiques, il y a des changements qui sont déjà en cours. Ils sont suffisamment perturbés, suffisamment désorientés par le dérèglement climatique qu'ils subissent. Et bien que les populations en Afrique, et je le dis, ce sont les populations les plus résilientes, parce que ce sont les populations qui vivent dans des conditions de stress extrêmement élevées, des populations qui ont une capacité, par contre, à s'adapter. Mais nous avons un rythme, un niveau d'évolution du climat qui risque de dépasser la capacité des populations à s'adapter par elles-mêmes. Donc, il faut une réflexion plus globale, plus stratégique et beaucoup plus pratique pour pouvoir répondre correctement et concrètement à leurs préoccupations.
Mmh. Lorsqu'on se retrouve dans une séance comme la COP 23, par exemple, il y en a eu d'autres, il y a deux types d'acteurs, si on peut le dire. Il y a les Africains qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont résilients, mais subissent de plein fouet les conséquences de quelque chose dont ils ne sont pas les acteurs au premier plan. Mais il y a aussi les riches, les pays riches, qui, de par leur industrie, ont beaucoup contribué à là où nous en sommes aujourd'hui, donc à ce niveau de réchauffement planétaire. Est-ce que la situation est appréhendée de la même manière par chacun de ces acteurs ? Si les Africains sont peut-être un peu pressés pour qu'on trouve une solution, est-ce que les autres, les pays riches, le sont, monsieur Issola et toi?
Bon, en fait, d'être pressé, je verrais beaucoup plus la chose sous le prisme de est-ce qu'on veut vraiment que ça change ou qu'on reste dans l'état actuel de la situation. Parce que nous, au niveau de l'Afrique, nous avons amené déjà, suivant le cycle des négociations, si je peux les appeler ainsi, on avait amené au-devant le principe pollueur-payeur, qui devrait être celui qui guide pratiquement les négociations, à l'effet de voir ce qui, du fait de la révolution industrielle avec toute leur machine à vapeur, ont contribué à ce qui est ce dérèglement que nous observons aujourd'hui, être ceux qui supportent la doise à payer pour que nous soyons en mesure de recevoir ce qui permettrait à nos populations d'avoir la possibilité de faire face aux effets néfastes tels que nous les avons relevés. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons aujourd'hui en face de nous ceux qui, à notre sens, veulent bien voir la situation perdurer, en donnant l'impression de négocier pour obtenir un changement, alors qu'en fait, on veut plutôt rester dans le statu quo. On s'est félicité avec beaucoup d'enthousiasme de l'adoption en 2015 de l'accord éponyme dit de Paris pour nous amener à limiter le niveau de réchauffement à, en dessous de 2 degrés Celsius. Mais on a pratiquement été amnésique sur les efforts de mise en œuvre ou de ratification de l'amendement de Doha qui appelait les pays justement cités en annexe 1 de pouvoir définir clairement les trajectoires qu'ils devront observer pour pouvoir réduire leur niveau d'émission. Ça veut dire que l'adoption qui a été faite et même la ratification et surtout l'entrée en vigueur dite précoce de l'accord de Paris n'est qu'un effet, comment je dois dire ça, c'est une arlésienne.
C'est un slogan.
C'est du vent.
Allez-y, dites-nous, quels sont ces pays cités en annexe qui devraient...
C'est déjà des pays comme celui qui nous abrite avec la Deutsche Welle aujourd'hui.
L'Allemagne.
C'est aussi et surtout tous les pays de l'Europe. C'est encore et surtout les États-Unis avec le niveau d'émissions représenté par les énergies fossiles avec le charbon qui est mis en avant. C'est l'Inde et c'est également la Chine qui hier était cachée sous le groupe des 77, mais qui aujourd'hui est un pays pratiquement industrialisé. Donc, en les citant rapidement comme ça, vous voyez que j'ai très peu cité aucun État africain. Et c'est justement ceux-là qui doivent faire des efforts pour montrer quelles sont les trajectoires à suivre pour que nous ne soyons pas en train de parler de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius, alors que rien n'est fait concrètement pour indiquer ce que on a à respecter comme engagement pour limiter le niveau des émissions nationales dans chacun de ces pays. Qu'on soit plutôt en train d'attendre des efforts qui soient faits dans le même sens pour les pays qui, hier, étaient supposés avoir un niveau d'émission à pratiquement 0% pour ce qui est des pays du bassin du Congo d'où je sors, et à qui on demande maintenant de s'engager aussi à faire des réductions, alors que nous sommes dans des trajectoires d'émergence qui doivent nous amener, certes peut-être à ne pas être aussi développés que ces pays le sont aujourd'hui, mais tout au moins avoir un niveau de vie acceptable pour les populations pour lesquelles nous sommes appelé à répondre.
Justement, c'est la question que beaucoup d'Africains se posent. Est-ce que lorsqu'on parle de limitation à 2 degrés, M. Serge Ndjekouneyom, ça signifie pour les Africains une réduction du rythme de développement?
À l'heure actuelle, oui. les mécanismes de développement qui sont apportés, qui sont faciles d'accès aujourd'hui, sont les mécanismes qui ont été utilisés par les pays industrialisés, c'est-à-dire l'exploitation.
L'énergie fossile.
Voilà, l'énergie fossile.
Là, on parle du pétrole, par exemple.
Du pétrole, essentiellement, du charbon. Et de toutes les énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre et les autres, comme le CO2 et bien d'autres gaz. Donc, on est devant un problème où notre émission pour tout le continent ne dépasse pas 3%, mais où nous subissons d'un autre côté les effets des changements climatiques et où des efforts supplémentaires nous sont demandés, y compris en termes d'émissions. Donc, ça veut dire que si les solutions alternatives qui existent en termes de développement, surtout en termes énergétiques, ne sont pas correctement et complètement mises à la disposition des populations et des gouvernements en Afrique, elles n'auront pas d'autre, ces populations n'auront pas d'autre choix que d'emprunter la même trajectoire que celle qui a conduit aujourd'hui à ces changements dont on parle. Donc, on sait que l'énergie solaire est une formidable opportunité pour l'Afrique.
C'est une des alternatives.
C'est une des alternatives et avec le niveau d'ensoleillement que nous connaissons en Afrique, nous avons vraiment une chance. Mais il faut transformer cela.
C'est-à-dire qu'il faut que la technologie soit fournie aux Africains, c'est ça?
Oui, mais il y a plusieurs paramètres. Il ne suffit pas simplement de transférer une technologie. Il faut transférer la connaissance, il faut transférer la capacité. Il faut vraiment permettre aux Africains d'être... Peut-être le financement est un élément, mais la capacité à la fois scientifique, technologique, la capacité est nécessaire au niveau des États pour pouvoir franchir le pas et adopter cette nouvelle façon de faire.
Oui, Roger et Sola et toi, on voit quand même que certains pays, notamment dans le nord de l'Afrique, un pays comme le Maroc, est à la pointe de l'énergie solaire. Le Maroc développe beaucoup de technologies et même le Maroc a une sorte de laboratoire pour former les jeunes, pour les utiliser dans cette technologie. Pourquoi est-ce que ça se passe différemment dans le sud du Sahara?
Ben, écoutez, si le Maroc s'est retrouvé un peu plus à l'aise pour capter les financements et assurer avec succès le transfert de technologies, au niveau des autres pays africains, nous sommes toujours en attente.
Peut-être qu'il se pose un problème de leadership ou quoi ou
pas
de
tellement, c'est beaucoup plus...
De vision
C'est beaucoup plus aussi un problème de flexibilité, d'accessibilité à ces mécanismes dits de financement. Vous ne pouvez pas mettre en place des structures qui sont dédiées à pouvoir accompagner les pays pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques en même temps que les conditions pour accéder à ces guichets sont d'une rigidité et même d'une fermeté. Je dirais, c'est à peine si on ne dirait pas qu'on les a mises en place juste pour donner l'impression qu'elles sont là. Je voudrais bien que l'exemple du Maroc puisse être partagé à d'autres pays africains. Nous nous sommes réjouis lorsque nous étions à Marrakech l'an dernier de pouvoir lancer plusieurs initiatives sous l'impulsion du roi Mohamed VI. Et justement, ces initiatives étaient destinées à pouvoir amener les autres pays africains de pouvoir bénéficier de l'accompagnement shérif. Et tant que nous aurons des guichets mis en place qui ne contribue pas véritablement à soutenir nos efforts, ça ne sera que du pipeau.
Monsieur Djeko Niyom, est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'une des choses qui font penser à beaucoup d'Africains qu'il y a peut-être un manque d'intérêt au niveau des dirigeants, des décideurs, c'est aussi un cas, par exemple, de la République démocratique du Congo, où l'organisation Greenpeace vient de déployer des scientifiques pour aller découvrir une zone de tourbière. Une couche dans le sous-sol qui peut capter le CO2. Alors, ce n'est pas le gouvernement congolais qui est à la pointe de cette découverte scientifique, mais ce sont des étrangers. Alors, est-ce que ce sont des choses qui indiquent que peut-être il n'y a pas l'empressement qu'il faut de la part des décideurs dans le sud du Sahara?
Je crois que au regard des conférences qui se sont passées et au regard un peu de l'attitude même des Africains, je parle de manière générale au-delà des simples gouvernants, l'intérêt est là. Mais les dispositions et les conditions qui permettent vraiment de rendre effectives ces nouvelles idées, ces nouvelles initiatives en termes énergétiques, en termes d'adaptation, nous pénalisent l'Afrique en fait. Aujourd'hui, nous avons des mécanismes de financement trop rigides. Et depuis que certains mécanismes sont mis en place, les Africains, beaucoup de pays africains au sud du Sahel, n'ont pas pu être éligibles. Comme si, en quelque sorte, les mécanismes étaient faits pour les empêcher.
Est-ce qu'il y a des critères de crédibilité, de solvabilité?
Absolument, à tous les niveaux. Il y a énormément de critères qui sont mis en place et de conditions qu'il faut remplir. Et donc, on se retrouve dans une situation où, moi, je dirais, c'est une urgence climatique. Il faut traiter cela comme une urgence climatique. Nous n'avons pas le temps pour que les gens puissent remplir toutes les conditions qui sont là. Il faut de la flexibilité, il faut faciliter les processus qui permettent d'arriver à l'obtention de ces financements. Par contre, aujourd'hui, il ne faut pas voir l'Afrique comme seule face à la situation. Nous pouvons nous appuyer sur des organismes comme ça a été le cas au Congo. Si nous savons qu'il y a une forme d'énergie que nous pourrions exploiter, nous n'avons pas la compétence en interne, nous pouvons au moins avoir l'idée de piloter quelque chose, de faire venir les compétences qui sont nécessaires, d'organiser toute la structure de support qui est nécessaire afin d'arriver à nos objectifs.
Alors, est-ce que vous voulez dire que les Africains n'ont pas de supporters sur la scène internationale? On voit par exemple un pays comme la France qui demande, selon nos informations aux Africains, d'attendre pour que les décisions soient prises prochainement en France. Lorsque la France, qui veut organiser une grande conférence en décembre sur le climat, lorsque tout le monde sera réuni, eh bien, c'est là-bas en France que les décisions seront annoncées. Donc, finalement, on n'attend pas grand-chose de cette COP23 ici en Allemagne. Lorsqu'il y a des combines comme ça, pourquoi les Africains ne peuvent pas aussi dire, bon, en échange, essayer aussi de plaider notre cause pour qu'on puisse avancer sur ce terrain, monsieur Essola et toi?
Bien, j'ai peur que la question du climat serve beaucoup plus des intérêts de marketing communicationnel.
Est-ce que c'est déjà le cas pratiquement, non?
Quand au niveau de la France, on pense qu'il faille organiser une rencontre de plus en décembre, à quoi sert l'événement de Bonn? À quoi servent les autres rencontres qui ont souvent été organisées, toutes en lien avec le climat? Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est bien d'abord ici, au niveau de Bonn, quand bien même la conférence ne reçoit pas le même niveau de médiatisation que la COP21 et que sais-je, c'est de passer à l'action véritable. Ouais. L'action telle que elle a été annoncée à Marrakech. Marrakech, on est sorti d'une COP de l'action. Il faut maintenant passer à l'action où chacun des pays, comme je l'ai dit à l'entame de cette discussion sous notre arbre à palabre, chacun des pays doit concrètement dire quel est le niveau d'engagement qu'il va prendre pour pouvoir rendre effective la trajectoire définie par Paris. Et nous attendons également que ici, au niveau de Bonn, les modalités de mise en œuvre de ce texte historiquement adopté à Paris puissent être définies.
Et donc les mouvements ne vont pas dans ce sens. Vous êtes inquiet?
J'ai peur que jusqu'à présent, le fonds vert annoncé sur 100 milliards de dollars à l'échéance 2020 est aujourd'hui à un niveau de contribution peut-être à 10,3. Je crois que nous sommes autour de cela. Mmh. Donc on est très loin de l'objectif fixé.
Mmh.
On attend au moins que des déclarations fortes soient faites à ce niveau-là et non pas des déclarations pour une autre conférence. On doit être à chaque fois en train de poser un pas qui nous amène à la décision de pouvoir maintenir le niveau de relèvement en dessous de 2 degrés Celsius.
Monsieur Ndiekouneyom, est-ce que c'est source d'inquiétude pour vous aussi que apparemment les uns et les autres soient plus préoccupés par le prestige d'être le pays qui a servi de cadre à un tel accord? Il y a un mélange, un conflit d'intérêts géopolitiques avec les intérêts plus concrets de l'humanité. On parle de la possibilité pour l'homme de pouvoir vivre sur cette terre.
Je crois que si tel est le cas, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à l'heure où on doit tirer la couverture de son côté. C'est vrai qu'on dit que l'Afrique est bien victime des effets des changements climatiques, mais quand vous observez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, notamment avec les cyclones, avec les ouragans, les pays riches ne sont pas épargnés avec la hausse de température. Donc aujourd'hui, il faut une communauté d'objectifs, une communauté de vues. Il faut que les gens se mettent ensemble en se disant que ce n'est pas un jeu de prestige auquel il faut se livrer, mais c'est un jeu d'action. Aujourd'hui, le problème qui s'est posé, c'est que bien que les émissions les plus importantes soient parties de l'Europe, soient parties des pays occidentaux comme des pays industrialisés, aujourd'hui les effets ne connaissent plus de frontières. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille encore continuer cette façon de faire qui consiste à avoir un peu la couverture de son côté pour bien se positionner. Il faut poser des actes en étant conscient que tout le monde est menacé.
Une question pour un dernier tour de table. Est-ce que tout tourne finalement autour de qui va supporter le fardeau, qui va mettre la main à la poche? Chacun essaye de pousser les pions de sorte à avoir le moins possible d'engagement à endosser quand on parle de financement ou bien de charges à supporter. Monsieur Roger Solaïtoa.
Oui, vous mettez effectivement là le doigt dans la plaie parce que... Quand on est sous l'arbre à palabre, on évite un peu de toujours se faire mal pendant qu'on discute. Et je crois que c'est d'ailleurs le principe que la présidence Fidji, des îles Fidji, a adopté dans ce qu'ils appellent le dialogue Talanoa pour conduire la COP, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que tout se passe sans faire mal aux uns aux autres. Mais quand on doit parler des financements, il faut vraiment mettre le doigt dans la plaie. Et mettre le doigt dans la plaie, c'est se rappeler aussi qu'il n'y a pas un seul mécanisme de financement qui est prévu dans les mécanismes financiers, les arrangements financiers pour faire face aux dérèglements climatiques, aux effets néfastes des changements climatiques. Il y a aussi le fonds pour l'adaptation qui a été mis en place par le protocole de Kyoto et qui est prévu dans ce qui est de l'accord de Paris de pouvoir être aussi mis en œuvre dans le cadre de l'accord de Paris. Et je voudrais vous rappeler que lorsque nous terminions à Marrakech l'an dernier, presque à la même période, la discussion qui a retardé la clôture des travaux portait justement sur le fait de que le fonds d'adaptation puisse être intégré dans l'accord de Paris, au même titre que le fonds vert. Et jusqu'aujourd'hui, la discussion renvoyée pour Bonn dans le cadre du SOFSTA est encore pendante là, au niveau de la COP 23. Et les discussions informelles sont en train de vouloir pousser la décision pour la prochaine COP. Vous voyez un peu. C'est dire qu'effectivement, quand on touche les questions de financement, personne de ceux qui sont interpellés par le principe pollueur-payeur, personne n'ose vouloir faire avancer, faire prospérer, voir en sorte que des mesures concrètes soient prises.
Merci beaucoup. Serge Ndjekouneyom, oui. Comment au niveau des Nations Unies, on appréhende un peu ce jeu de cache-cache qui se passe?
Au niveau du système des Nations Unies, et en particulier au niveau du PNUD, c'est un rôle que doit pleinement jouer cette organisation pour permettre effectivement que les pays puissent soumissionner de manière appropriée vis-à-vis de ces financements.
Mais il n'y a pas de moyens de pression, on dirait.
Les moyens, ça dépend. Les organisations sont en appui des pays. Donc, ça dépend de la volonté du pays.
Malheureusement. Donc
si un pays exprime une volonté forte, il peut avoir un soutien à la hauteur de la volonté qui est exprimée. Et donc, ça peut être un soutien technique, mais il faut qu'au niveau de la volonté, elle soit vraiment claire jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des entraves par la suite et que tout le processus puisse être conduit correctement. Et ça, c'est le rôle au niveau du PNUD, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, la FAO, etc., de permettre que ce sont des agences accréditées par rapport au Fonds vert. Donc, ce sont des agences qui pourraient donner une valeur ajoutée. Mais il faut que les pays puissent exprimer le besoin et puissent vraiment avoir une disponibilité totale. Et en ce moment, toute l'expertise qu'il faut apporter pourra être apportée ajouté à la volonté, ça peut faire bouger les choses.
Merci beaucoup. Merci. Comme quoi, dans les négociations sur le climat, il peut y avoir également conflit d'intérêts et les enjeux s'entremêlent et s'entrechoquent. Nous sommes à la fin de cette émission avec Serge Ndiekouneyom, spécialiste en programme développement durable pour le PNUD, et Louis-Roger Essola et toi, ancien parlementaire camerounais et président du comité de pilotage sous-régional de la conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine pour un autre thème sous l'arbre à palabre.